La sensation, c'est... je sais, mais je sais pas comment expliquer.
Ça peut être aussi pour défendre une cause.
Par exemple, pour aider les animaux en voie de disparition.
Se balader en forêt, parce que les Vosges, c'est le département le plus boisé de France.
Il y a plein de choses qui donnent envie à être mal.
Les Vosges, c'est bien parce qu'au moins, on est à la campagne.
Je vous garantis que si vous dites à cette personne il y a un logement dans les Vosges, ah bah il y aura dans les Vosges, parce que les Vosges, c'est bien. Hein.
C'est...
Personne n'a plus rien.
2, 3...
Bonjour, bonsoir, bon matin, citoyennes et citoyens, vosgiennes et vosgiens, terriennes et terriens. Nous vous revoici revenus pour ce deuxième numéro de podcast Vosjas, le podcast qui parle des associations vosgiennes. On sait qu'on vous a manqué depuis le mois de novembre, l'attente était à son comble. Vous nous avez écrit, vous avez protesté, manifesté pour qu'on revienne et nous nous exécutons, nous revoici. Je suis toujours, je crois, Mathieu Brassier, directeur de l'association La Compagnie de la 5e Sirène d'Épinal et co-président, je crois aussi, du collectif Réseau d'Être. Il est vrai qu'en ces temps incertains, on n'est plus sûr de rien, mais tout porte à le croire. Mais je suis surtout content aujourd'hui de recevoir Christine Triboulot, référente CCFD de Terre Solidaire. Bonjour Christine.
Bonjour.
Ça va ?
Très bien.
Et Luc Neuser, président de la Libre Pensée et membre de la CAN. Bonjour Luc.
Bonjour.
C'était correct ce que j'ai dit ?
C'était impeccable. C'était oui, je suis président de la Libre Pensée 88. Voilà.
Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet important qui est la matière de vos associations contre la guerre ou pour la paix. Ça, on pourra aussi en discuter. Mais avant de débattre de ces sujets, je vous laisse la parole pour vous présenter et présenter un petit peu vos associations.
Donc, moi, je voudrais parler du CCFD Terre Solidaire. C'est déjà un comité catholique contre la faim pour le développement qui regroupe 60 pays et qui a pour objectif, surtout au niveau éducatif, c'est-à-dire qu'au niveau éducatif, avec des partenaires du CCFD, les partenaires, ce sont des personnes, femmes ou hommes, qui accompagnent les différentes personnes qui sont sur le terrain dans les 60 pays, accompagner, donner des idées, pratiquer le plaidoyer, parce que pour les personnes qui sont sur le terrain, c'est toujours difficile. De faire des plaidoyers, et ce n'est pas leur rôle. Donc, c'est surtout les partenaires qui en sont chargés. J'expliquerai un petit peu plus tard les différents partenaires, notamment en Palestine, Israël.
Merci Christine. Luc, tu te présentais aussi ?
Oui. Alors donc, la Fédération départementale des Vosges de la Libre Pensée donc, s'est reconstituée en fait en avril 2022. Donc c'est tout récent. Parce qu'en fait, je suis Vosgien d'adoption depuis 2020. J'étais libre penseur dans la Marne et je n'ai trouvé aucune structure affiliée lorsque je suis venu dans le 88 qui était affilié à la FNLP. Donc, il y a une seule option, s'offrait à moi, c'était constituer une section départementale, ce que j'ai fait avec mon ami José Arias, qui est vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée. Donc, effectivement, j'en suis maintenant le président. Je suis membre de la commission administrative nationale de la Fédération nationale et je suis membre par ailleurs de la commission internationale de la FNLP. Et je pourrais effectivement évoquer tout à l'heure la situation internationale et parler de la guerre et des dispositifs dans l'éducation nationale qui sont en fait mis en place pour embrigader la jeunesse. Donc, je suis par ailleurs représentant aussi de l'Association internationale de la libre pensée au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Voilà. Donc, qu'est-ce que la libre pensée ? Déjà, la libre pensée, c'est tout simplement une association philosophique et d'éducation populaire. Nous n'acceptons aucune subvention, aucun financement de qui que ce soit parce que nous voulons rester indépendants. Donc, nous vivons exclusivement des cotisations de nos adhérents. C'est important pour nous. Alors, si on veut refaire un peu d'histoire rapidement, c'est qu'on plonge nos racines dans l'Antiquité avec Socrate, Démocrite, en passant par le Moyen-Âge avec François Villon, la Renaissance, Erasme, Rabelais, etc. Donc, la libre-pensée, en fait, est l'œuvre de tous ceux qui ont refusé à un moment les vérités révélées et imposées par les autorités et qui osèrent se dresser un jour pour dire non à l'obscurantisme et à l'oppression.
Merci beaucoup, Luc. Pardon, j'ai un petit peu précipité, mais ça, on pourra en revenir plus tard dans le cadre de l'échange qu'on aura. Pour lancer l'échange, moi, j'ai envie de me remettre à ma place il y a à peu près un an, où j'ignorais ou connaissais que très superficiellement le contexte de guerre dans lequel nous sommes actuellement, à part de vagues informations que j'avais sur les médias mainstream, sur l'Ukraine et la Palestine. Et bah, j'ai acquis de nouvelles connaissances grâce à vous, mais pour quelqu'un comme je l'étais, j'aimerais que vous m'expliquiez, vous, avec les connaissances que vous avez, où on en est aujourd'hui. Et voir un petit peu aussi les enjeux et les dangers qui se préparent actuellement. Christine ?
Alors, ma première interpellation, c'est parler de paix. Peut-on parler de paix ? C'est une grosse question aujourd'hui. Et le CCFD Terre Solidaire, qui est une ONG, organisation non gouvernementale, il travaille beaucoup. Oui, il y a génocide. Oui, il y a génocide. Oui, comme vous venez de le dire tout à l'heure, je pense qu'il faut relever aussi toute cette misère humaine que l'on voit aussi bien en Palestine qu'en Israël, ça on y tient beaucoup. Le CCFD, Terre Solidaire, notamment national, tient beaucoup puisque nous avons des partenaires autant en Palestine qu'en Israël. Je dis autant, nous en avons 6 en Israël et 4 en Palestine. Avant, ils étaient 10 et 8. Donc ça donne quand même à réfléchir. Plusieurs de nos partenaires, vu le contexte, vu la réalité, les lieux où ils habitaient ont été bombardés. Je prends le cas en 2022, lorsque je suis allée pour la première fois en Palestine-Israël, lors d'un voyage solidaire, puisque CCFD Terre Solidaire organise des voyages solidaires. Notamment, je vous conseille d'y aller, puisque quand on est sur le terrain, on apprend beaucoup. Nous avons eu l'occasion de visiter, grâce à la personne qui organise les voyages solidaires, Françoise Billot. Nous en sommes au 31e voyage solidaire, donc c'est pas rien. Et nous avons eu l'occasion de visiter Filastiniat. Qu'est-ce que c'est Filastiniat ? Filastiniat, c'est une association qui a été créée par une personne palestinienne de Gaza qui s'appelle Wafa, W-A-F-A. Et lorsque nous sommes arrivés à l'association Filastiniat, qui concerne notamment les femmes de la presse, il y a quelques hommes, mais notamment des femmes de la presse, nous avons vraiment été interpellés par 3 personnes qui étaient emprisonnées par les colons israéliens. Quand je dis Israël, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, entre
nous
guillemets.
Nous sommes bien d'accord.
Mais là, c'est surtout la colonisation qui est fortement impliquée, fortement... Si on prend, par exemple, on parle de la Palestine, mais il y a une partie de la Palestine qu'on oublie quelquefois, et c'est la Cisjordanie. Et de plus en plus de colons sont en Cisjordanie. Et ça, les colons... moi, j'ai eu l'occasion de voir des colons dans une ancienne église qui faisait du sport. Lorsqu'ils nous ont vus, ils sont tous partis. On leur a peut-être fait peur, j'en sais rien, mais enfin, valait mieux qu'ils ne restent pas. Et donc, ce colonialisme est fortement impliqué, d'autant plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que l'on dit, il faut faire attention à ce que l'on fait. Nous avons eu l'occasion à Filastiniat, notamment, d'être renseignés sur comment évolue la presse. Il y a d'ailleurs un film, un documentaire que je viens de passer le mois dernier. Il y a eu un ciné-débat à Saint-Dié où il y a des personnes, c'était 80 personnes parce que la salle était trop petite. Donc, 100 personnes étaient intéressées. Donc ça, je pense que c'est important. Nous devons être interpellés par ce qu'il se passe en Palestine et en Israël. Et non pas être interpellés devant certaines antennes de télévision qui nous racontent n'importe quoi et qui donnent priorité à un pays ou à un autre, plus notamment Israël. Bien sûr, je pense, je ne conseille pas, je ne veux pas faire une critique des antennes de télévision, mais je pense que Arte, il y a des documentaires qui sont très bien. Et là, je pense qu'on a tout intérêt à se former. Et la paix c'est aussi une paix en soi-même. Lorsqu'on arrive en voyage solidaire, on peut avoir certaines appréhensions, ce qui est tout à fait normal. Mais la paix, elle commence chez nous. Et je parle quand, lorsque je suis intervenue pour Saint-Dié, j'ai dit, plusieurs personnes m'ont interpellée en me disant, vous croyez qu'il y aura un jour la paix ? Bonne question. Est-ce qu'on aspire tous à la paix ? Mais la paix, je me pose la question encore aujourd'hui. Et oui, il y a des trêves. Oui, il y a des cessez-le-feu. Mais la paix, vous savez, quand on lit la Bible, la paix n'a jamais existé. On reprend l'Ancien Testament et c'est une suite de l'Ancien Testament. On parle du 7 octobre 2023, je pense que c'est ça. Mmh. Et donc, on dit, mais pourquoi ? Oui, c'est la faute du Hamas. C'est la faute à qui ? Et je pense que ça, c'est important. Donc, ne jetons pas la pierre. Accueillons la paix si un jour elle vient, ce que chacun souhaite, notamment les Palestiniens et les familles israéliennes. Mais viendra-t-elle ou viendra-t-elle pas ? Il faut que, et je reprends une expression d'Eliade Pappé, que vous connaissez sans doute, lorsque les Israéliens se sentiront bien là où ils sont, lorsque les Palestiniens se sentiront bien là où ils sont, oui, il y aura la paix.
Merci beaucoup, Christine. Ça me fait rebondir justement une question que je vais te poser, Luc. C'est ici, est-ce qu'on est vraiment encore en contexte de paix ? En France, est-ce qu'on peut dire que c'est un contexte de paix où il y a quelque chose qui est en train de se préparer et que tout le monde ignore ou fait semblant d'ignorer ?
Alors, sur cette question, effectivement, on assiste de la part du gouvernement actuel à une escalade guerrière. Alors déjà, on la voit de par les budgets. Hein. Le budget militaire, la programmation de la militaire a prévu 413 milliards de budget d'armement et consacré à la défense. Et là, il y a encore une augmentation de 6,7 milliards. Alors, en France, c'est comme cela, mais seulement, je veux dire, on le constate dans tous les pays européens, ça devient démentiel. Je veux dire, tout ce qui est consacré à l'armement, c'est complètement dingue. Là, donc déjà, on ne peut pas arriver à la paix si on fournit des armes, etc. Hein? Donc ça, c'est... Et plein de gens disent, mais oui, mais on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux sont dans un état complètement délabré, l'école, etc., tous les services publics. Ne pourrait-on pas, je dirais, consacrer cet argent justement à la population plutôt que d'en faire profiter ? Parce que les seuls qui profitent actuellement, c'est les industriels de l'armement. Eux, ils font des profits incroyables. Donc voilà. Alors, il y a actuellement une tentative de Macron d'embrigader la jeunesse, alors par l'intermédiaire de différents, de préparer les esprits à la guerre même, je dirais, par l'intermédiaire de différents dispositifs qui existent. Hein, on assiste à des dispositifs tels que, par exemple, les classes défense et la remise en marche d'un service national volontaire. Hein, donc, alors, les classes défense, c'est quoi ? C'est en fait, vous avez un trinôme éducation-défense-association, en fait, qui est placé sous l'autorité du recteur et qui en fait organise tous ces dispositifs. Hein. Alors quand vous savez que dans ce trinôme vous avez le recteur, mais vous avez donc un représentant de l'éducation nationale, mais vous avez un représentant du ministère des Armées, et puis un représentant de l'association régionale des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale. Alors je veux dire qu'on est loin de l'objectif de l'éducation nationale. L'école doit avant tout être émancipatrice et on ne doit pas voir rentrer l'armée dans les écoles. Alors j'ai repris un peu le tableau de ce qui se passe au niveau des classes défense, pour bien comprendre. Il y a plus de 70 classes défense et sécurité globale qui ont été lancées, dont plusieurs en gendarmerie nationale depuis la rentrée 2024. Et je voudrais signaler quand même, puisqu'on est dans les Vosges, le caractère exceptionnel du département des Vosges, où le 1er régiment de tirailleurs d'Épinal a noué des partenariats avec beaucoup de collèges. Hein, Charlemagne de Bruyères, Louis Armand, à Golbey, à Fraise, à Neuchâteau, à Remiremont, à Rupes-sur-Moselle, au collège Chouet de Saint-Yé-des-Vosges, où il y a un lien avec la marine nationale, etc. Voilà. Donc, il y a presque 1500 élèves, ça date de 2023-2024, mais presque 1500 élèves du secondaire qui ont été sensibilisés. Hein. Donc, nous assistons au travers de ces classes défense, en fait, à une préparation des jeunes à se préparer à la guerre. Parce que là, bon, la libre-pensée le dit déjà depuis 2024, la guerre qui vient, nous sommes quand même... les éléments qui nous arrivent, je veux dire, quand on voit ce qui se passe dans le monde, notamment au travers de l'impérialisme US, c'est qu'on arrive vers une... On peut craindre une troisième guerre mondiale. Je parlerai des actions que mènent les pays européens, les militants dans les différents pays, parce qu'on ne reste pas, bien sûr, inactifs, parce que sinon, on ne peut pas laisser faire, sinon on va... Et vous avez aussi le service national volontaire. Les syndicats y sont opposés, hein, parce que c'est une campagne en fait, de recrutement qui a commencé le 12 janvier, hein, où on annonce des possibilités pour les lycéens et les étudiants de participer à ce service national volontaire. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On leur propose 800 euros, mais en fait, on achète les jeunes pour les pousser vers l'armée. Hein. C'est simplement ça. Et quand on leur propose 800 euros, et on sait très bien ce qui va se passer. C'est que les jeunes qui vont se diriger vers ça, ce sont les jeunes défavorisés, les jeunes qui sont en situation de précarité déjà, et qui vont pour avoir pendant un certain temps 800 euros. Et donc, on va attirer la jeunesse, je dirais précaire, je mets des guillemets, mais pour les emmener petit à petit vers l'armée. Quand on sait ce qui se passe au niveau de Parcoursup chez les étudiants, où les jeunes n'arrivent pas à avoir les formations qu'ils souhaitent, hein. Nous, on est pour l'abrogation de Parcoursup. Hein. Et donc, sur cette histoire de Parcoursup, qu'est-ce qu'on leur propose à la place? Eh bien, on leur propose un service national volontaire. Donc, c'est tout un système qui se met en place. Donc, je vais en terminer là. Mais avec les classes défense, vous avez des rallyes citoyens, hein. Des stages de découverte, pareil, dans l'armée, où on leur fait mettre des uniformes, etc. On leur fait manier des armes. C'est clairement les choses. Là, l'autre fois, il y a eu... un truc qui a fait scandale, c'était dans un centre pénitentiaire, je crois que c'était à Fontenay, si je me trompe. Les trucs pénitentiaires, ça a dégénéré, où ils leur ont fait faire des clés, des trucs de répression. Ils ont éduqué les jeunes, ce qu'ils appellent un rallye citoyen, mais en fait, c'est les éduquer à la répression. Hein. Donc, ça fait un scandale, voilà. Il faut condamner toute cette entreprise de militarisation de l'école, de l'université, de la jeunesse, voilà.
Ben merci. Bon, déjà, c'est beaucoup d'informations, à mon avis. Oui. Enfin, moi... Tu me l'avais appris il y a quelques temps, mais je méconnaissais complètement ça avant. Et Christine, tu voulais dire quelque chose?
Oui, je voulais intervenir sur le côté éducatif. Moi, très orientée sur le côté éducatif, notamment avec personnellement, et aussi au niveau CCFD. Je pense que moi, ayant vécu 30 ans à Cherbourg, je voudrais donner un cas concret. Lorsque j'étais à Cherbourg, en lycée professionnel, quand on dit aux élèves « tu ne pourras pas suivre ailleurs, viens ici », c'est déjà une mauvaise appréciation et le côté éducatif fortement mis en branle. Il m'est arrivé une fois que la police intervienne dans une classe. J'avoue que j'ai été choquée. Et pourquoi? Parce qu'on avait entendu parler qu'il y avait eu un trafic de drogue. Un policier devant toute la classe a embarqué deux élèves. C'est ça le côté éducatif? Alors bon, moi, j'ai été surprise, j'ai été choquée. Je ne suis pas allée au commissariat pour faire une réclamation. J'aurais pu et j'étais fortement tentée. Le deuxième cas, c'est lorsque je suis arrivée en Jérusalem, qui est pourtant une très belle ville. En 2022, j'ai été fortement frappée par des filles de 18 ans qui avaient fini une partie de leurs études, qui étaient en habit militaire et qui étaient avec un fusil. Et puis, donc là, oui, j'ai été frappée. J'ai été aussi fortement interpellée par certaines réflexions, parce que là aussi commence la paix, certaines réflexions d'un couple, lorsque j'étais dans l'avion, qui m'ont demandé où j'allais. Je suis restée très discrète. J'ai dit, je vais en Palestine-Israël. Ce jeune couple, qui travaillait les langues, j'ai bien vu que c'était des langues, qui sont tournés vers moi et qui m'ont dit, vous n'allez quand même pas voir ces animaux-là? Alors j'ai répondu, je ne vais pas dans un zoo, monsieur. Et là, vraiment, c'est le côté éducatif qu'il faut interpeller, qu'il faut approfondir et qu'il faut peut-être s'interroger. Parlons-nous correctement d'éducation? Alors, c'était dans l'avion, mais ça peut être dehors. Moi qui suis fortement impliquée dans les quartiers, j'y vis, j'y habite. Quelquefois, le côté éducatif n'est pas très important. Et je pense qu'on a aussi à s'interpeller pour qu'il y ait la paix. Voilà, merci.
Non, merci à toi. Par rapport à ce que tu disais, Luc, des classes défense, moi j'ai une question pratique, parce que j'ai rencontré une enseignante qui m'a dit que les classes défense se faisaient à la demande des écoles et des enseignants. C'était pas l'armée, enfin la classe défense qui sollicitait l'école pour venir faire une intervention. Est-ce que toi, tu peux confirmer ?
Alors oui, il y a effectivement des projets qui sont proposés et c'est les enseignants qui sont volontaires qui s'y collent, en fait. Oui, effectivement, c'est un choix de certains enseignants pour entrer dans le processus, quoi. Pour un enseignant, moi, je pense qu'on ne doit pas participer à ce genre de choses, quoi. Et j'étais directeur d'école, donc c'est pertinemment que je ne serais pas entré dans ce genre de choses. Hein. Parce que quand on voit ce qu'il se pratique dans les classes défense, c'est vraiment ce qu'ils appellent, ils appellent ça une éducation à la défense. Hein. Donc on est loin d'une école émancipatrice. Hein. Donc effectivement, il y a un choix de certains enseignants. J'ai discuté avec un libre penseur qui est sur Saint-Dié et qui est historien d'ailleurs et qui lui a au collège Souhait de Saint-Dié où il y a une classe qui est en liaison avec la Marine nationale. Donc il y a un professeur qui s'est engagé dans ce processus. Lui par contre ne s'engagera jamais dans ce processus parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Voilà. Bon, puis maintenant on essaye d'attirer les élèves d'une certaine manière, on fait passer ça sous un truc ludique. Bon, les gamins vont faire un voyage, vont visiter, descendre dans le sud pour aller se retrouver sur un gros bateau de l'armée, etc. Ils sont contents d'aller faire ça, hein, parce qu'ils sont dans les jeux vidéo, etc. Mais sauf que la guerre, c'est pas un jeu vidéo, c'est autre chose. Et puis, même les jeux vidéo sont particulièrement agressifs. Et donc, les jeunes, on les attire, on leur dit, on va vous faire faire du sport, des choses comme ça. Mais il y a certains endroits où les parents aussi, je dirais, se sont mobilisés contre ça parce qu'ils voient vraiment le côté plus que néfaste. Hein, parce que là, c'est vraiment... je veux dire, on prépare les esprits. Hein, je n'ai pas d'autre terme.
Ah oui. Non, mais c'est clair. C'est très clair. Alors, on a un petit peu parlé de ce qui se passait en France. Bon, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. En Palestine aussi. Il y a quand même un contexte mondial de guerre aussi. On a un monsieur Donald Trump aux États-Unis. On a un monsieur Poutine en URSS qui fait la même chose. On a des alliances potentielles qui peuvent se former avec la Chine ou avec d'autres pays qui font un peu peur. Et encore une fois, jusqu'à quel point c'est certain. J'ai entendu parler du Tchad aussi. Christine, tu pourras en dire un mot. L'Iran. Donc, est-ce que vous pourriez aussi, par rapport aux connaissances que vous avez, nous éclairer un petit peu là-dessus ?
Gros problème, grosse question. comment peut-on vivre ensemble au Tchad. Alors, il y a des rivalités qui concernent surtout les éleveurs de troupeaux, les éleveurs au niveau surtout agricole, et qu'il y a, même, ça va même jusqu'à des frappes et des morts qui, avec les nomades. Et je pense que ça, c'est très important. Alors, bon, on a toujours cette tension de propriété de terrain et de propriété d'animaux. Et là, je prends ça parce que c'est comme exemple, parce qu'au niveau CCFD, Terre solidaire, c'est surtout la partie agricole qui est concernée. Donc, c'est pour la raison pour laquelle, donc, au Tchad, il y a surtout des rivalités en ce qui concerne ces deux côtés de personnes. Voilà.
Je me permets juste d'ajouter, il me semble qu'en plus, c'est pas nouveau. Au Tchad, ça fait longtemps que ça dure.
Ça fait très longtemps que ça dure.
Mais ça n'intéresse personne parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt au Tchad. Il n'y a pas, pas
voilà,
de pétrole, il n'y a pas d'intérêt financier. Donc le Tchad, à la limite, on en parle très, très peu, voire pas du tout.
On n'en parle pas beaucoup, quoi. Et je sais, moi, j'ai des amis qui sont allés au Tchad en me disant, mais c'est un pays dont on ne parle pas. Mais pourquoi on ne parle pas? Mais c'est pareil, cette rivalité entre les pays. Je prends, il y a le Tchad, mais il y a d'autres pays dont on ne parle pas ou très peu. Et vous croyez qu'au Congo, ça va mieux? Donc ça, bon, c'est pareil, j'ai des connaissances qui sont au Congo et qui, sur le plan humain et éducatif, qui ont... Alors, elles sont surtout orientées vers les établissements scolaires. Et vous avez des enfants qui sont forcés de travailler dans les mines et qui ne vont pas à l'école parce que il faut aussi que les parents puissent vivre. Tout ça, c'est étroitement lié. Toute cette question de vitalité, toute question de profit. Si je reprends le CCFD avec les partenaires, ils ont un énorme travail. Moi, je leur dirais un grand merci parce que c'est pas évident ce qu'ils font. Et dans un contexte de réalité, les partenaires sont issus du terrain, donc ils connaissent le terrain. Mais comment avancer? Comment? Et nous, c'est vraiment une question capitale à laquelle il faudrait approfondir, se former, approfondir, etc. Quoi. Voilà.
Bah, déjà, vous l'étudiez, cette question capitale.
Déjà, nous l'étudions et nous essayons de transmettre. Mais ceux qui transmettent le plus sont les partenaires et les chargés de mission.
Bien sûr.
Voilà.
Luc, est-ce que toi, tu as d'autres éclairages à nous apporter, justement, par rapport au contexte mondial, pardon?
Bah, écoute, Mathieu, déjà, ce que tu as dit en citant Trump, je dirais que tu as tout dit, là. Je veux dire, c'est... voilà, c'est... L'impérialisme US, on ne peut pas l'appeler autrement, hein, c'est qui ose tout. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Hein. Parce qu'après le génocide en Palestine, il y a eu dernièrement le rapt politique au Venezuela, quand même, où on a enlevé un prisonnier et son épouse. Alors, on pense ce que l'on veut des idées de Maduro. En tout cas, c'est quand même quelque chose d'anormal qu'on ait kidnappé un président dans un autre pays avec sa femme. Ça, c'est quand même des méthodes, je veux dire, dignes de gangs et de malfrats, quoi. Donc, ça, alors, je voudrais, après le Venezuela, il va pas s'en tenir là, parce que il a évoqué, il tente maintenant d'étrangler le peuple cubain. Hein. On a bien compris que ça dure, il y a un blocus qui dure depuis 60 ans à Cuba. Et aujourd'hui, il va encore serrer un peu plus le garrot impérialiste sur Cuba, quoi. Bah, la raison, elle en est dramatiquement simple, hein, c'est que, je veux dire, il n'y a aucun moyen de résoudre la crise du système pour lui, capitalisme mondial, parce qu'ils sont en crise, dont il est le flambeau d'ailleurs déclinant, mais Trump et son gang, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, hein, parce que je vous signale que maintenant, ce n'est pas un ministère de la Défense nationale qu'il a, c'est un ministère de la guerre. Ça veut tout dire.
Nuance, oui.
Oui, c'est une nuance plus qu'importante. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On le voit bien avec ses droits de douane, mais tout le reste, intimidation, chantage, pillage, enlèvement, on a tout droit. Donc, c'est une stratégie de terreur guerrière, en fait. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, Trump a affirmé que son fidèle conseiller Marco Rubio serait le prochain président cubain. Donc c'est lui qui va administrer finalement toute l'Amérique latine, en fait. Hein. Les choses sont claires. La mission du nouveau ministère, comme je viens de dire, il l'a dit, hein. C'est comme le proclame Pete, ex-7 secrétaire américain à la guerre nommé par Trump, la mission du nouveau ministre est la guerre, il l'a dit, la préparation à la guerre et à la victoire. C'est-à-dire, il n'y a pas plus clair que ça. Donc, combien d'autres pays vont être sur la liste des prédateurs US ? On voit bien que toute l'Amérique latine est visée. Au nom du combat contre le narcotrafic, alors on vise la Colombie, le Mexique, puis après toute l'Amérique latine. Hein, je veux dire, alors nous, la libre-pensée, on dénonce avec la plus grande fermeté, c'est toutes ces tentatives impérialistes. Parce qu'on détruit la souveraineté des États, on soumet les peuples, alors c'est le cas en Palestine évidemment, mais par la faim, la maladie, le chaos, moyen de procéder assimilable à des actes de guerre. Hein, d'ailleurs, on combat. Pour ça que je disais, je rappelle ce qu'on avait dit tout à l'heure, on combat pour la liberté de conscience. Alors, la liberté de conscience de chaque individu, mais pour un monde débarrassé de la guerre, de l'exploitation, du dogme et de l'oppression. Et cette liberté, comment dire, de conscience qui vaut pour l'individu, c'est la même, mais qui se traduit pour les peuples par une chose, par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est eux qui doivent décider d'eux-mêmes de leur situation, partout sur tous les continents. Alors malheureusement, je vais peut-être faire preuve d'un peu de pessimisme ou de choses, mais enfin, il y a une marche à la Troisième Guerre mondiale qui s'accélère de plus en plus. Moi, je suis... mon père a été résistant pendant la guerre 39-45. Il m'avait dit que lorsque la situation sociale ne va pas, on emmène les peuples vers la guerre. C'est ce qu'il m'avait dit. Il avait fait 36. Et d'ailleurs, il s'est retrouvé 2 ans en camp de concentration parce qu'il avait hébergé des Juifs et qu'il avait été dénoncé. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué. Pour ça que je suis peut-être engagé de cette manière-là maintenant. Donc, il y a même l'Allemagne qui, dernièrement, vient de dire « La France ne va pas assez loin dans les dépenses d'armement. Il faut augmenter, couper dans les dépenses sociales. » Non, mais vous imaginez.
Alors, pardon, je rebondis là-dessus parce que c'est important et pour que je comprenne bien et que tout le monde comprenne bien. Trump demande aux autres pays d'augmenter leur budget de guerre.
Oui, d'être à minima à 5% de leur PIB. Voilà.
Donc il impose un petit peu aux autres pays de faire ce que lui fait.
Oui,
c'est ça. Et la plupart des pays s'exécutent.
Ah, bien sûr. Oh, bon. Là, actuellement, on le voit bien, il n'y en a aucun pays qui... Et vous n'avez qu'à voir les budgets d'armement dans tous les pays. Alors, je ne veux pas vous sortir tous les chiffres, mais c'est démentiel actuellement. Les dépenses d'armement, elles sont considérables. C'est plusieurs milliards d'euros qui sont faits pour ça. Alors, quand on voit l'état de nos... Si on cite que les hôpitaux ou les services publics, dans quel état... Il y a des gens qui meurent sur les brancards dans les... dans les couloirs d'hôpitaux. Il y a quelque chose qui ne va pas, quand même. Moi, ma priorité, c'est plutôt que l'argent aille vers ça. Moi, je ne veux pas de la guerre. Et d'ailleurs, les peuples ne veulent pas de la guerre. Aucun peuple ne veut de la guerre. Ce sont des gouvernements qui veulent la guerre. Et c'est pour ça que nous sommes pour... on soutient vraiment les déserteurs qu'il y a en Ukraine comme en Russie. La guerre, elle passe toujours par l'alignement des consciences. Et nous, on refuse cet alignement des consciences. Parce qu'on revendique le droit de penser Kant, de démasquer la propagande et d'organiser la résistance. Parce que quand on voit ce qui se passe, si ce n'est que par rapport à la Palestine, dès que vous brandissez un drapeau palestinien, vous êtes considéré comme un délinquant. Là, dernièrement, par exemple, il y a un petit exemple rapide. Un AESH dans un bahut qui a un an de la retraite, on vient de le muter parce qu'il avait mis un petit autocollant ou un drapeau palestinien sur sa boîte dans la salle des profs. En Angleterre, il y a un procès qui est fait à deux militants très responsables d'organisation, parce qu'ils ont appelé une manifestation en soutien à la Palestine. Ils sont en procès. Donc vous imaginez vers quoi on va. Alors, c'est pour ça que je veux dire, les peuples actuellement, les militants se réunissent. Il y a eu un meeting à Paris, je vous en ai parlé, pour la paix contre la guerre le 5 octobre, qui a réuni des 4000 militants venant de 22 à 23 pays. Et ce qui est important de voir, c'est que finalement, sans intervenir à la tribune, vous aviez côte à côte une journaliste israélienne et une militante palestinienne qui ont causé côte à côte. Vous aviez un Ukrainien et un Russe aussi qui ont causé. La paix viendra d'en bas, elle ne viendra pas des marchés, hein. Elle viendra des peuples. Et c'est pour ça que je voudrais évoquer la suite de ce meeting de Paris. C'est un meeting qui va avoir lieu à Londres. À Londres, le 26 juin. c'est à nouveau un meeting contre la guerre pour la paix, pour continuer, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là et on ne peut pas laisser faire. Pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a des militants de 23 pays qui ont signé cet appel-là. Là, je ne vais pas vous le lire parce qu'il est assez long, mais vous comprenez que c'est contre la guerre et pour la paix.
Merci beaucoup, Luc. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as parlé de ton père, je crois, qui était résistant, c'est ça ? Et tu as parlé d'engagement. Je vois, par exemple, aux États-Unis, qu'il y a quand même une certaine... rébellion peut-être avec des guillemets, mais je vois quand même qu'il y a des prises de parole médiatiques d'artistes, de journalistes, de gens qui descendent dans la rue aussi, qui manifestent. Bon, en Russie, c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, il y a eu quand même quelques tentatives. J'ai l'impression qu'en France, c'est encore un peu poussif. J'ai l'impression... Alors, soit on essaie de ne pas parler de ce contexte de guerre. Pourquoi, à votre avis, en France, c'est si compliqué d'avoir un vrai mouvement, un véritable engagement, une vraie prise de parole qui puisse... Parce qu'on a vu, là, par exemple, ce qui est arrivé à Blanche Gardin, alors qu'elle a fait juste un sketch sur la Palestine. Sur la Palestine... plutôt sur le fait d'être antisémite, etc. Mais bon, c'était vraiment un sketch. C'était pas du Dieudonné, tout le monde était au courant. Elle a plus de travail, on la voit plus. Enfin bon, voilà. Alors qu'aux États-Unis, je vois quand même qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, qui ont vraiment un réseau médiatique et qui prennent la parole. Pourquoi, à votre avis, en France, c'est si compliqué ?
Je pense que je rejoins très fort ton interpellation, Mathieu, parce que lorsque j'ai présenté le documentaire sur la presse à Gaza, donc ce sont 5 personnes de la presse qui interviennent. D'ailleurs, ce documentaire, je pense qu'il est à voir. On peut toujours me demander pour que j'intervienne. D'ailleurs, j'interviendrai avec un ami de Jérusalem. Et la prochaine rencontre, c'est à la bibliothèque municipale intercommunale d'Épinal. Et je pense que quand les personnes de la presse sont interrogées, pourquoi continuez-vous sur Mathieu ? Parce que Dieu sait s'il y en a qui ont perdu leur vie, femmes de la presse. Et quelle interpellation avez-vous ? Et les femmes de la presse ont répondu dans le documentaire, et c'est partout, on n'est pas soutenu par l'Occident. Et je pense que ça, moi, ça m'a très fort interpellée, on est seul. Et si on continue notre travail à Gaza, c'est parce qu'on est seul. Et je pense que cette solitude, il y a toujours une peur, il y a une crainte, je pense que... entre guillemets, nous sommes des peureux. Et je pense que si nous-mêmes, nous continuons à être interpellés, nous continuons à parler, c'est parce qu'on tient vraiment à ce que ça bouge, à ce que ça change. Tout à l'heure, vous interveniez sur l'éducation, sur les jeunes, sur l'armement. Je pense que ça, c'est important, mais il faudrait que ce soit publié et à tout milieu et dans tout domaine, et pas seulement au niveau gouvernemental. Mais je rejoins tout à l'heure ce que je disais, là où on est. Et il faut vraiment que nous-mêmes, avec nos petits moyens, je dis toujours, on est les colibris de la paix. Quelquefois, on se dit, ce que je dis, ça ne sert à rien. Mais si, ça sert. Mais si, parce que tu as parlé et tu as dit ce que tu pensais, bien sûr avec une formation. Et un cas concret, c'est quand on va sur le terrain. Mais là, je pense que... Mais quand est-ce qu'on n'aura plus peur ? Et ça, pourquoi il y a... Bon, il y a peut-être le passé qui fait qu'il y a une appréhension. Mais enfin, nous sommes des peureux. Et arrêtons d'avoir peur. Voilà.
Merci beaucoup, Christine, et tu as raison. Luc ?
Alors, sur la situation bon, en France, mais on pourrait, je veux dire, faire le parallèle avec d'autres pays. Bon, déjà, rien que ce meeting qui a eu lieu à Paris, je veux dire, on a réussi à rassembler quand même 4000 militants, ce qui n'est pas rien contre la guerre et pour la paix. Mais... prenez un peu dans votre sens, il faut voir qu'il y a quand même une véritable répression. qui s'opère dans le pays, dès que vous bougez le doigt, notamment sur la question d'ailleurs de la Palestine, hein, je veux dire, c'est terrible la répression. Si, je voudrais citer par exemple le secrétaire de l'Union départementale CGT du Nord, Jean-Paul Delescot, condamné à un an de prison avec sursis pour avoir mis sur son tract, simplement un tract en soutien à la Palestine. Condamné à un an de prison avec sursis. Alors, moi, je voulais quand même dire que, effectivement, la résistance, elle s'opère par le bas. Citer l'exemple de l'Italie, c'est hyper important. Au départ, en Italie, il ne se passait pas grand-chose. Et puis, vous savez, les principaux syndicats de dockers ont bloqué les ports italiens. Ça a conduit une grève générale. Ils ont bloqué les livraisons d'armes vers Israël. Et là, au départ, ils n'y croyaient pas. Et bien, je vous assure qu'en 3 jours, il y a eu une grève générale qui a bloqué tous les ports italiens. Alors voilà. Donc, même chose aux États-Unis. En plus, aux États-Unis, ce n'est pas évident non plus de... Je veux dire, mais là, par rapport à l'ICE, hein, je veux dire, quand même, cette fameuse milice anti-migrants, etc., on a vu ce qu'elle a fait, il y a eu des assassinats. Je veux dire, n'empêche qu'à Minneapolis, il y a eu des manifestations importantes et qu'ils ont été obligés pratiquement de dégager là. Donc, les mouvements de résistance arrivent. Alors, c'est vrai, il y a certains pays comme en Angleterre où il y a des manifestations monstres, mais tout dépend du contexte. Mais en France, vous avez aussi certaines manifestations. Moi, je pense que les syndicats devraient plus s'investir en France. Je pense qu'ils ne sont pas assez, je sais pas le mot courageux, mais voilà. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait des appels à ça, mais de toute façon, nous sommes là. Et quand, je dis même, quand on peut être 8, 10 dans un rassemblement contre la Palestine, mais il y en a partout en France. Donc ça, vous les rajoutez, etc. Alors, c'est sûr, on peut se dire, on pourrait être plus nombreux. Mais vous savez, les résistants à la guerre, ils n'étaient pas nombreux, hein. Ils n'étaient pas très nombreux et ils ont fait tout capoter.
On peut voir les choses comme ça d'une manière positive, c'est vrai. Là, il va nous rester quelques minutes. Qu'est-ce que vous pourriez... Oui, pardon, Christine, tu voulais ajouter quelque chose.
Je voudrais en revenir aux mobilisations, parce que je pense que c'est ce à quoi vous pensiez tout à l'heure. J'habite Épinal, et lorsque nous avons fait une mobilisation à la place des Vosges, il n'y avait pas tellement de monde. Et quand on a commencé à aller au plateau de la justice, là, il y avait du monde. Là, il y avait des jeunes. Et même des jeunes qui venaient du centre-ville, qui sont montés jusqu'au plateau de la justice. Faut-il être pauvre pour être conscient que la réalité existe et que la guerre existe ailleurs ?
Pas mal. Pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez recommander encore une fois à une personne comme j'étais ou comme je suis peut-être encore et comme le sont peut-être les gens qui nous écoutent, qui veulent s'engager, qui veulent s'informer, où est-ce qu'ils peuvent aller, où s'adresser Bon, on a parlé de vos associations, mais est-ce qu'il y a des choses à faire en tout cas maintenant qui sont accessibles et qui peuvent être faites rapidement ?
Rapidement, il y a des livres à lire. Et ça, c'est important.
Oui.
Je compte répertorier tous les livres que je lis et les publier. Il y a aussi, alors attention aux documentaires sur toute chaîne de télé. Je pense que Arte, pour moi, est très important et qu'on ait le droit, la dernière fois, lorsqu'il y a eu le printemps de la Palestine, il y avait une partie du documentaire qui est passée au centre culturel. Et on a dit, je ne sais pas qui a dit, que c'était trop politique. Ça veut dire quoi ? Mais de la politique, on en fait tous les jours et à tout moment. Alors arrêtons.
Et évitons peut-être aussi les reportages de CNews, on ne sait jamais. On va dire, bon, préférons Arte à CNews. Allez, on peut le dire. Luc ?
Oui, bon, de toute façon, donc, je rappelle le meeting de Londres qu'on prépare, parce qu'on essaie de dégager une délégation de Lorrain, hein, que ce soit des Vosgiens, des Mosellans ou des Meurthe-et-Mosellans, même si on ne sera peut-être pas des milliers, mais je veux dire, ça commence déjà par ça. Moi, j'invite donc à contacter la Libre Pensée pour effectivement préparer ce meeting, parce que c'est au niveau européen que ça se prépare. Et il faut aussi, pour agir, il faut aussi pouvoir comprendre. Donc, nous estimons qu'il faut pouvoir lire. Et ça, c'est hyper important de se documenter et de lire pour pouvoir agir et comprendre, parce que c'est pas évident de comprendre la situation, je veux dire, actuelle. Et j'ai oublié d'en parler, mais il existe un collectif dans les Vosges, collectif contre la militarisation de la jeunesse et de l'école, qui est composé de, je crois, d'une vingtaine de membres. Alors il y a des associations, il y a des gens qui y sont à titre individuel, mais un collectif qui existe pour se mobiliser contre la guerre, mais contre toute forme de militarisation dans les Vosges. Et le collectif national, au départ, c'était contre le SNU, qui a capoté. Hein. Vous vous rappelez, Macron voulait déjà nous emmener vers ça. Et donc, ce collectif SNU était à l'initiative donc, de la Libre Pensée, de l'Union Pacifiste et de l'Union Solidaire. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut continuer. Et on a créé de ce fait-là un petit groupe sur WhatsApp contre la guerre, où des gens veulent savoir un peu plus, veulent comprendre ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on agrège les gens petit à petit, hein, je veux dire. Voilà.
Oui, c'est vrai que maintenant, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux et c'est très important. Rappelle-moi la date. Il y a un meeting en Lorraine prochainement ou c'est sur Paris ou sur Londres?
Alors, il y a le meeting de Londres le 26 juin, mais à Paris... Celui qui est responsable de Stop the War, John Rees, qui était à l'origine du premier meeting, va venir avec un ancien responsable du syndicat des transports britanniques pour faire des meetings en France, à Nantes, Lyon et Paris. Voilà, 1er, 2 et 3 avril, voilà.
Et toi, Christine, le prochain événement, c'est, rappelle-nous...
Le prochain événement, c'est le voyage solidaire. Palestine-Israël, donc normalement si tout va bien, nous partons du 2 au 17 mai en Palestine-Israël avec 15 participants, dont 3 Vosgiens.
Et la projection ou l'événement dont tu parlais sur le chat?
Alors, j'ai une projection en ce qui concerne le documentaire sur les journalistes en ligne de mire, donc les femmes de la presse, à Remiremont. Dans le cadre de la période de carême, et à la BMI, la Bibliothèque Municipale Intercommunale d'Épinal, à la BMI le 10 avril 17h30. Et là, j'interviendrai avec un ami de Jérusalem et un ami du Liban, parce qu'on n'a pas parlé du Liban, mais bien le Liban aussi, il y a des réalités, le Liban, la Syrie. Si nous pouvons penser à toutes ces personnes-là, il y a beaucoup à faire et les journées sont trop courtes.
Bah merci en tout cas à toi aussi d'y penser et de nous en informer. Merci beaucoup Luc, merci beaucoup Christine, merci à Radio Guémozo qui nous accueille aujourd'hui pour ce deuxième épisode dans ses locaux et on profite de studio. Donc merci à la radio et merci à l'IA et à tout bientôt pour un nouvel épisode de Vosjazz. Merci beaucoup, au revoir.